Bonjour à tous. Eh bien, mon invité ce matin, c'est Antoine Grande, directeur du musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne, un établissement qui présente à partir de samedi prochain, 25 juin, une exposition intitulée « Joséphine Baker, une vie d'engagement » à découvrir jusqu'au 29 octobre du mardi au samedi. Je rappelle que Joséphine Baker a été panthéonisée il y a quelques mois et c'est donc à la femme engagée que cette exposition rend hommage, à cette artiste de music-hall afro-américaine devenue française, entrée dans la résistance sous l'occupation, puis engagée dans de multiples causes après-guerre. Antoine Grande, bonjour. Est-ce que ce qui a motivé l'organisation de cette exposition, c'est le fait que Joséphine Baker soit entrée au Panthéon, bien sûr, et donc il fallait rappeler les raisons pour lesquelles elle a été honorée de la sorte par son pays d'adoption, le nôtre, en montrant en quoi sa vie, son parcours et ses engagements sont exemplaires?
Alors, en fait, non. Mais la panthéonisation est l'aboutissement d'un processus qui est le même que celui qui avait provoqué pour le conseil départemental de la Haute-Garonne le désir de mettre à l'honneur cette figure aux facettes multiples, variées, incarnant tout à la fois les engagements, parce que le titre de l'exposition, hein, vous l'avez dit, c'est une vie d'engagement, et cet engagement avec un S. Et ce projet d'exposition remonte à il y a quelques années pour le conseil départemental, lorsque le président de la Maison de l'Afrique à Toulouse, Yao Modinou, s'est adressé à la collectivité pour faire part de l'acquisition d'une collection exceptionnelle par des collectionneurs toulousains, les ACIM, de photographies, d'affiches, et d'objets soit représentant Joséphine Baker, soit ayant appartenu à Joséphine Baker. La panthéonisation en 2021 de Joséphine Baker a naturellement amené toute l'équipe et les commissaires que nous sommes de cette exposition à intégrer cette séquence dans l'exposition qui lui est dédiée. Mais c'est une sorte de, non pas de concours de circonstances, mais de rencontre, de temporalité. Et la question de cette panthéonisation est d'ailleurs la conclusion de l'exposition que nous consacrons à Joséphine Baker.
Voilà, donc il y avait l'opportunité que vous offraient ces pièces qui étaient mises à votre disposition pour organiser cette exposition. Comment vous l'avez construite, cette exposition, et quel parcours propose-t-elle aux visiteurs? Est-ce qu'elle est surtout consacrée à la résistance de Joséphine Baker, puis à ses engagements pour les droits humains contre le racisme, ou est-ce qu'on y découvre vraiment toutes les étapes de sa vie, parce qu'on ne peut pas comprendre ses engagements sans savoir d'où vient, d'où est partie Joséphine Baker, est-ce qu'elle a vécu avant d'arriver en France et même pendant le reste de sa vie?
Alors, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle est essentielle. Un musée de la résistance et de la déportation n'est pas un espace anodin, hein, n'est pas un espace d'exposition comme tous les autres. Pour autant, la figure de Joséphine Baker, premièrement, ne peut pas être résumée à la Seconde Guerre mondiale et à l'engagement réel qu'elle a eu auprès du général de Gaulle. Mais en plus, Joséphine Baker, durant la Seconde Guerre mondiale, incarne un engagement qui, s'il est héroïque, courageux et exemplaire, ne peut pas être extensible à l'ensemble des formes de résistance en clandestinité, y compris pour les femmes. C'est-à-dire que Joséphine Baker est, durant la guerre, la Joséphine Baker qu'elle a été durant toute sa vie. C'est-à-dire une femme de rayonnement, une femme qui incarne la vie, qui incarne une dynamique, qui incarne une capacité à se jouer des représentations, à se jouer des carcans, ce qui a été particulièrement utile dans les missions qui ont été les siennes durant la guerre. Pour autant, elle n'est pas une combattante de l'ombre, au même titre que des figures que nous allons mettre en avant, durant cette exposition, la résistante toulousaine Jeanne Philippe, l'aviatrice des forces aériennes françaises libres Margot Duhalde, qui elles sont des combattantes de la clandestinité ou de la France libre. Donc, si la question de l'engagement de Joséphine Baker durant la Seconde Guerre mondiale donne naturellement lieu à un traitement spécifique dans cette exposition, la façon dont nous avons conçu l'ensemble était bien de reprendre l'ensemble du parcours de Joséphine Baker et, sans vouloir faire une exposition hagiographique, de comprendre comment, dans son existence, premièrement, elle a bouleversé des représentations, des carcans, des clichés, des enfermements, et on pourra revenir dessus tout à l'heure, que cela soit la façon dont elle quitte et combat l'apartheid, la manière dont, d'arriver en France, lui sont imposées des représentations qui sont issues d'un fantasme de l'Europe coloniale. Elle n'est plus l'américaine lorsqu'elle arrive à Paris, elle est la femme noire alors qu'elle est métisse. Mais la façon dont elle va jouer de chacun de ces cadres qu'on tente de lui imposer pour exprimer des valeurs universelles, des valeurs d'engagement et affirmer sa liberté. Donc la façon dont elle vient complètement bouleverser la France des années 20-30, tant esthétiquement finalement que politiquement aussi, la manière dont progressivement la place dont elle jouit et la liberté que lui offre la place dont elle jouit lui permet de s'engager sur divers combats, les combats, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et son engagement à la LICA, qui va devenir ensuite la LICRA, son engagement en maçonnerie aussi, la manière dont elle va adhérer à l'ensemble des combats pour les droits humains, jusqu'à naturellement sa participation auprès de Martin Luther King pour la marche des droits civiques à Washington. Mais la troisième partie de cette exposition, c'est aussi l'héritage de Joséphine Baker aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont elle continue à être une source d'inspiration, soit pour des artistes. On peut penser à des artistes très connus.
Comme Beyoncé.
Comme Beyoncé par exemple, mais aussi comme Jean-Paul Gaultier, comme Jeff Mills, comme des artistes contemporains moins grand public, mais aussi la façon dont elle devient une muse et une incarnation pour la République, naturellement avec son entrée au Panthéon. Et si vous voulez, cette troisième partie vient au Musée de la Résistance et de la Déportation, là encore prendre un relief tout particulier. Pourquoi? Parce que depuis sa réouverture et sa rénovation, le Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne est aussi un musée qui porte un autre thème, une autre volonté d'exposition, de travail, de transmission, résolue sous la formule lutte et citoyenneté. C'est la raison pour laquelle se trouve au cœur de nos collections, aux côtés des objets de la résistance, de la déportation, des archives, de tous les documents qui font notre exposition, une pièce absolument exceptionnelle qui est le buste réalisé en 1848 d'une Marianne noire, quelques semaines avant l'abolition de l'esclavage, et qui vient camper d'une certaine manière les des valeurs de la République. Et nous avons trouvé que encadrer cette dernière partie par ce buste d'une Marianne noire qui va jusqu'à l'entrée au Panthéon de cette femme métisse, libre, artiste, combattante, résistante, était une manière aussi d'inscrire dans le temps long la figure de Joséphine Baker et celle de son entrée au Panthéon.
Alors vous parlez.
Enfin,
Ah oui, tu laisses terminer, allez-y.
je vous en prie. Enfin, Joséphine Baker est pour nous, au Musée de la Résistance, une possibilité d'amener le regard des visiteurs et du public sur les engagements de femmes durant la guerre, sur les engagements de femmes en clandestinité. Elle nous permet de tirer des fils et c'est ce que nous voyons dans l'exposition.
Voilà, alors vous parlez de la conception donc de cette exposition, des différents modules, si je puis dire, qui la constituent. Donc je vais donner les titres hein, de ces modules. Il y a derrière un exotisme fantasmé, muse, une patriote venue d'ailleurs, une honorable correspondante, les combats d'après-guerre, les Milandes évidemment importants, là ce château qu'elle avait acquis dans le Périgord avec son mari à l'époque, un village du monde, et puis donc les héritages de Joséphine Baker sur lesquels vous venez de beaucoup insister à juste titre. Sur quels documents s'appuie l'exposition pour illustrer la vie et les engagements de Joséphine Baker? Vous parliez des pièces que vous aviez pu recevoir pour monter l'exposition. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des archives, des éléments biographiques, des photos, des articles de presse, des lettres, et puis des objets, sans doute, peut-être aussi des œuvres qui lui ont été consacrées?
Alors vous savez, quand vous créez une exposition, là encore vous tirez un fil, qui est naturellement celui de la problématique, des grands axes de l'exposition. Une fois que vous avez tiré ces fils et ces grands axes, vous allez chercher ce qui est le plus pertinent pour l'illustrer. Cette exposition est aussi pour le musée la première exposition de son histoire dans laquelle autant d'œuvres de premier plan et d'objets de premier plan seront présentés. Joséphine Baker est une source d'inspiration pour les artistes de son temps. Il était essentiel pour nous d'aller chercher des œuvres des artistes de son temps. Nous présentons une sculpture de Sébastien Tamary, nous présentons le mobile de Calder qui lui a été consacré dans les années 20 par Alexandre Calder, qui nous est prêté par le musée Beaubourg. Nous présentons aussi toute une série d'affiches originales de Paul Colin notamment, de dessins du Corbusier, de photographies exceptionnelles. Nous présentons aussi des photographies d'une artiste et d'une reporter que les Toulousains connaissent bien, Madame Chomel, qui a photographié Joséphine Baker lors d'une de ses venues à Toulouse. Nous présentons aussi des œuvres contemporaines, des œuvres une œuvre africaine contemporaine qui nous permet de déconstruire les représentations qui ont été imposées à Joséphine Baker, c'est-à-dire la ceinture de banane, les photos de nus, etc., pour casser les représentations de cet exotisme fantasmé, essayer nous aussi d'en jouer de la même manière qu'elle les a utilisées pour s'échapper d'une certaine manière de ce cadre qui lui était donné. Ça, c'est pour la partie artistique, avec des œuvres, je vous le dis, aussi très contemporaines, une Niki de Saint-Phalle notamment. Pour la partie d'illustration et d'incarnation des engagements de Joséphine Baker, nous sommes allés emprunter toute une série d'archives, de documents d'archives, notamment aux Archives nationales, au Service historique de la Défense, celle de sa correspondance avec le général de Gaulle. Elle entretient une correspondance extrêmement touchante avec le général, qu'elle signe toujours par cette formule « Votre sale gaulliste », l'ensemble des documents où elle demande sa naturalisation, où elle sollicite les autorités françaises pour l'aider dans son projet d'un village du monde au Milan, où elle vit avec sa tribu arc-en-ciel, et ce qui, des documents qui sont très touchants, parce que Joséphine Baker est à la vie comme à la scène, c'est-à-dire que quand elle écrit au général de Gaulle au service de l'État et qu'elle signe les documents administratifs. Vous savez, il y a peu de choses aussi strictes et organisées qu'un document administratif. Et bien, à chaque fois qu'elle doit signer, c'est presque à chaque fois un autographe qu'elle fait à la fin de son document. Donc, des documents comme ça qui sont extrêmement touchants. Nous avons emprunté aussi au musée de l'armée la tenue d'aviatrice, de Margot Duhal, cette aviatrice dont nous parlions, qui a conduit les avions de la France libre entre leur chaîne de production aux États-Unis et leur arrivée en Angleterre, apprenant des risques absolument incroyables, qui est la seule femme aviatrice des forces françaises aériennes libres. Nous empruntons toute une série aussi de photographies et d'objets iconiques, renvoyant à Joséphine Baker, un morceau de cette ceinture de banane pour mieux la déconstruire justement, des photographies de sa famille, de ses 12 enfants adoptés avec son mari Joe Bouillon, qu'ils élèvent
La fameuse
au
tribu
Milan.
arc-en-ciel.
La fameuse tribu arc-en-ciel, des articles de journaux, les articles du droit de vivre, le journal de la LICRA aujourd'hui, l'ICA à l'époque, relatant ses discours, ses tournées dans le monde, mais aussi les notes des renseignements généraux, se méfiant de Joséphine Baker. Nous aurons, et une pièce,
Alors,
et je
excusez-moi,
termine
je
sur
vous arrête
cette,
parce qu'il nous
je vous en
reste
prie.
à peine 1 minute et demie. Juste une chose pour terminer. On entend dire à juste titre que la société française actuelle est fracturée, que la communauté nationale est morcelée et qu'elle aurait besoin d'être réconciliée. Est-ce que Joséphine Baker est justement une figure réconciliatrice? Est-ce que c'est pas aussi une des raisons de l'organisation de cette exposition?
Mais ça, c'est le projet, c'est l'ADN même du musée. Si vous voulez, tout ce que nous développons, c'est justement comment est-ce que l'on essaie de reconstituer une collectivité qui parfois peut être brisée, divisée, et comment est-ce qu'on va puiser dans l'histoire à la fois des exemples et des avertissements. Et Joséphine Baker, parce qu'elle est cette force de vie, mais cette force de vie dirigée vers les autres, est allée jusqu'à la résistance, est allée jusqu'au combat contre l'occupant, est allée jusqu'à la manifestation, à la lutte pour les droits civiques. Et donc c'est en ça qu'elle est une source d'inspiration, naturellement pour les artistes, mais aussi pour l'ensemble des citoyens qui s'intéressent aux valeurs universelles de la République.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Grand d'avoir été notre invité ce matin et vous avez donné toutes les raisons qui font qu'il faut aller voir cette exposition. Joséphine Baker, une vie d'engagement, engagement au pluriel, est à voir au musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne à Toulouse du 25 juin au 29 octobre. Il y a une journée dédiée ce samedi 25 juin. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à midi et demi, puis de 13h30 à 18h. Pour vous renseigner, il y a un site internet www.musée-résistance.haute-garonne.fr.